Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux, c'est vrai, d'être sauvés. Nous sommes heureux de compter sur la grâce de Dieu. Nous sommes heureux d'être dans sa maison et nous voulons poursuivre ce sujet afin que tout soit fait pour que Dieu puisse se manifester. Nous allons faire une lecture dans les Proverbes 28 au verset 14. Je pense que vous avez déjà lu ce verset. C'est un verset qui va très bien suite aux dernières prédications que nous avons ensemble partagées. Proverbes chapitre 28, verset 14. C'est une grande vérité. On arrive à mieux le comprendre quand on le lit. On sait que c'est vrai, mais une fois qu'on le visualise, on sait que c'est vrai. Et Proverbes chapitre 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, c'est-à-dire dans le respect, bien sûr. La crainte, ce n'est pas dans le sens de peur. Il est hors de question de parler de la peur de Dieu, mais de la crainte, c'est-à-dire le respect. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Et c'est bien vrai. Un homme qui s'applique à être continuellement dans le respect des choses spirituelles est un homme qui est heureux. Oui, heureux. On est heureux parce que Jésus nous a sauvés, mais si on n'entretient pas le salut, eh bien on ne sera pas heureux. Et beaucoup de croyants ne sont pas heureux parce qu'ils aiment Jésus, comme je l'ai expliqué dimanche, mais ils n'ont pas ce saint respect des choses de Dieu et ils ne peuvent pas rester attachés au Seigneur. Nous allons lire encore un proverbe, Proverbe 2, chapitre 2. Nous allons faire pas mal de lectures ce soir, mais elles sont nécessaires par rapport à ce sujet que nous poursuivrons normalement encore dimanche prochain pour aller plus loin dans la perception et la compréhension de la gloire de Dieu. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 5. C'est le verset 5 qui nous intéresse, mais regardez ce qu'il faut faire. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, je répète, le respect, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Il nous est parlé là d'une recherche, comme s'il y avait un trésor chez vous. Que feriez-vous pour le chercher? Si on vous disait, voilà, dans le sous-sol de votre maison, il y a 5 millions d'euros dans un carton. Est-ce que vous prendrez le risque de casser le carrelage, même si... Qu'est-ce que vous feriez? Sérieusement, si on vous promettait, mais je t'assure, c'est vrai, c'est dans le jardin, c'est sous la maison, mais il y a 5 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prendrez même le risque de casser une partie de la maison? Bien sûr. Et Dieu le dit, que si quelqu'un comprend qu'il y a un trésor à trouver dans la parole de Dieu, nous devrions le chercher comme un trésor. Et nous découvririons ces deux immenses vertus, la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu. Dimanche, je vous ai parlé que même les rois, surtout les rois, devaient lire la loi de Dieu. Alors on va le lire ce texte, parce que c'est important. C'est la suite de mardi et de dimanche. Donc si vous n'étiez pas là ces deux dernières réunions, vous ne comprendrez peut-être pas tout. Mais c'est quand même important de faire un suivi par rapport à un sujet aussi sérieux qui est la gloire du Seigneur. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 17... Voilà ce que Dieu demandait, Deutéronome 17, verset 18. Salomon aurait dû lire le verset 16 et le verset 17. Mais ce qui nous intéresse à nous ce soir, c'est du verset 18 au verset 20. Et si Salomon avait fait attention au verset 17 et 18, je peux vous dire qu'il n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Hein. Afin que son cœur... Vous voyez, c'est des choses... Est-ce que Salomon avait reçu la sagesse? Est-ce que vous vous rendez... Je fais une digression, ça fait rien. Salomon est l'homme sur la terre qui a reçu la sagesse. Mais voyez, malgré le fait qu'il ait reçu la sagesse, il n'a pas suffisamment pris au sérieux la parole. Car il devait certainement avoir lu le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres qu'ils avaient à l'époque. Et voyez, il était dit, au verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. Et voyez, il s'est détourné, puisqu'il a fait des temples aux dieux de ces femmes qu'il avait épousées, pour vous dire que la sagesse qu'il a utilisée pour faire le temple, il l'a également utilisée pour le diable. Ça fait quand même pitié. Voyez, c'est bien d'avoir reçu des talents, mais ça ne remplacera pas la connaissance de la parole de Dieu. Verset 18, donc en parlant des rois. « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. » Je répète, les rois. « Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Amen. » Voilà ce que Dieu demandait au roi. Alors si vous avez lu les livres des rois dans la Bible, vous avez vérifié que beaucoup ne l'ont pas fait. Que beaucoup ont bien commencé et très mal fini, d'autres ont mal commencé et bien fini, il y a ceux qui ont mal commencé et mal fini, il y a quelques-uns qui ont bien commencé et bien fini, heureusement. Mais ça nous indique comme quoi il faut faire très attention à la façon dont on commence et surtout à la façon dont on finit. Donc Dieu l'avait dit. Et David, qui a été un homme selon le cœur de Dieu, quand Dieu l'a choisi, c'était quelqu'un qu'il avait choisi avec soin. Il était un homme selon le cœur de Dieu. L'a-t-il lu? Il a lu beaucoup de choses, David. Quand vous voyez les psaumes qu'il a écrits, c'est tiré du Pentateuque. Quand il écrit « Le Seigneur est mon berger », est-ce que c'est écrit dans le livre des Nombres que Dieu est le berger d'Israël? C'est écrit. Donc David connaissait le Pentateuque. C'est certainement un des rois qui a le mieux connu le Pentateuque. Et pourtant, quand il a voulu ramener l'arche à Jérusalem, lisez avec moi dans 1 Chronique au chapitre 13. C'est important, vous allez comprendre que même si on est sérieux, même si on a de bonnes intentions, on peut se tromper parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 13. Saül est mort, David obtient la royauté, il va faire ce qu'il faut faire, et la première des choses qu'il voudra faire, c'est ramener l'arche qui représente la présence de Dieu. Alors regardez son intention, c'est excellent. 1 Chronique, chapitre 13, verset 1er. David tint conseil avec les chefs, des milliers, de centaines, avec tous les princes. Il s'est bien entouré, voyez, vous êtes d'accord avec moi? Il s'est très très bien entouré. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi car la chose parut convenable à tout le peuple et on peut dire Amen. C'était une chose excellente. Tous les responsables, tous les princes, tous les chefs des milliers, de centaines, ont dit, mais c'est super. C'est formidable. Tu te rends compte, on ne s'en est pas occupé du temps de Saül. Il ne s'en est pas occupé. Lui, il s'est occupé à sa gloire personnelle. Toi, tu arrives, ta première idée, c'est de ramener l'arche. C'était convenable. C'était excellent. Et ça venait en plus de quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Est-ce que vous auriez eu confiance au roi David? Ben ouais, c'était quand même qu'il avait une drôle de réputation. Vous avez vu la réputation de David jusqu'à ce qu'il arrive à ce niveau-là? Alors, Dieu voulait que les rois, tous les jours de leur vie, lisent dans la parole de Dieu. Pourquoi? Eh ben c'est simple à comprendre. Pour que les choses spirituelles soient en premier dans leur vie. Comme nous d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que Dieu veut que les choses soient... en premier dans notre, les choses spirituelles soient en premier, oui. Et si vous vous appliquez tous les jours à vous nourrir de la parole de Dieu, il y a de fortes chances que les choses spirituelles restent en premier, à moins que vous lisiez pour lire. Dans le cœur des rois, qui avait une immense responsabilité, il fallait que la loi de Dieu soit en premier. Et si David avait pris le temps, je n'ai pas l'autorité pour le juger, mais il est certain qu'il ne l'a pas lu, ou il ne l'a pas retenu, il n'y a pas fait attention, et si il avait fait attention à toute la loi, cette erreur aurait pu être évitée. Je fais allusion à Uzza, qui est mort, vous l'avez compris. Ils ont ramené l'arche à leur façon, c'était une super bonne idée, ça ne pouvait pas être meilleur. Et je crois que nous, on a une idée. On a une idée, nous aussi. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans l'Église? Est-ce que c'est convenable? Est-ce qu'il y aurait un chrétien qui ne serait pas d'accord? Vous avez vu, tout le peuple a dit, mais c'est super, c'est convenable. Vous questionnez tous les chrétiens de France, quelle que soit leur dénomination, à partir du moment où ils sont nés de nouveau, qu'ils sont passés par la repentance, tous vous diront, on veut voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas satisfaits, malgré le fait que nous sommes touchés par la présence de Dieu, puisque la Bible dit qu'il est présent au milieu de nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais voilà, ça ne suffit pas pour la manifestation de sa puissance. Alors, il n'a pas consulté le Seigneur. Il n'y a pas eu un parmi eux qui ait dit, mais d'accord, mais n'y a-t-il pas des indications dans le Deutéronome, dans le Nombre, dans le Pentateuque, les cinq premiers livres, pour la façon dont il faut ramener l'arche? Personne. Personne n'a eu cette idée. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. On veut voir la gloire de Dieu et on est prêt à partir dans n'importe quelle intention. J'ai entendu dans une pastorale il y a 2 ou 3 ans, même des serviteurs qui ont dit, ce qui est important, c'est l'idée. Après, quoi que ce soit qu'on fasse, à partir du moment où on le fait de tout notre cœur, Dieu le bénira. Mais non, et surtout pas ça. Et je l'ai entendu, et tout le monde a dit amen. Tout le monde. Et moi, je me suis tué parce que c'était un moment où il valait mieux que je me taise. Mais je vous dis franchement, ça m'a fait de la peine. Ce n'est pas l'intention qui compte. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. S'il l'avait lu, s'il avait dit, attendez, d'accord, ça fait 20 ans qu'on s'en est pas occupé de l'arche, on peut prendre quelques jours pour voir. Et nous, c'est vrai que nous aussi, nous devrions dire, mais est-ce qu'il ne faut pas lire le Nouveau Testament? Notre modèle, c'est le livre des Actes. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. On a chanté dimanche matin, mets ton modèle à moi. Hein? Divin modèle, mets ton image à moi. Nous, notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et voyez, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que quand Uzza est mort, moi je trouve que le jugement est sévère quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'était sévère? Il avait choisi Uzza, c'était lui. C'est comme si on faisait quelque chose et que je choisisse Jérémy ou je sais pas, quelqu'un de qui on est proche quand même, et que ce gars il meurt, on dit quand même. Ça a dû profondément blesser le cœur de David. Et il aurait lu qu'on ne porte pas l'arche de l'Alliance n'importe comment. Vous voyez, il aurait lu, on va le lire. C'est quand même important parce que ça nous permet à nous de réfléchir à la façon dont Dieu veut que nous fassions les choses. Regardez, Exode. Exode chapitre 25. Je peux vous dire que David connaissait la loi. Vous avez lu le psaume 119, tout ce qu'il écrit sur la loi, les statuts, les commandements, les préceptes, etc. Mais voyez, dans une affaire qui était aussi importante, il a cru penser que l'intention suffisait. Exode 25, verset 10. Donc c'est l'arche de l'Alliance. Exode 25, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et au dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres seront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Amen. Dans le livre des Nombres, chapitre 4, et ça il a lu. Laissez-moi vous dire que David a lu ça, mais il a oublié. Nombre 4, verset 15. Il n'y a pas des choses qu'on a oubliées d'après vous?
Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a oubliées?
Eh oui, que Dieu nous garde. Nombre 4, verset 15. Après, qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter. Mais, vous y êtes? Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Regardez le verset, chapitre 7, c'est nombre 7, oui, nombre 7, verset 9. Mais il n'en donna point aux fils de Kehath, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Voyez. S'il avait lu, il aurait dit non, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui doivent porter l'arche, ce sont les sacrificateurs, les lévites. Ils doivent porter ça et surtout même pas enlever les barres des anneaux. Vous voyez les anneaux, quand on voit toute l'arche de l'Alliance, quand on voit tout ce qui a été, comment dirais-je, dicté par Dieu pour le tabernacle, allez, je le trouvais, le tabernacle, qu'est-ce que des anneaux d'or, qu'est-ce que ces quatre détails? C'est des détails. Et nous, on est dans un monde où les détails, c'est pas grave. Eh bien, non, les détails, c'est important. Et c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir ce soir. Est-ce que toutes ces petites choses de ma vie que Dieu me demande, est-ce que je les considère comme des choses qui ne sont pas importantes? Ça paraissait ne pas être important, quatre anneaux d'or, eh bien, voyez, ça aurait dû l'être. Et voyez, mon frère et soeur, dans l'église, vous voyez, dimanche, j'ai prêché sur la ponctualité, par exemple. Pour des gens, c'est un détail. Pour des jeunes, mais ils vont me dire, mais monsieur Gou, c'est pas grave. Quelqu'un me l'a dit dernièrement, mais c'est pas grave. C'est pas grave la ponctualité. Ce qui est important, c'est la fidélité. La personne m'a dit, mais non, que je vienne. En retard, c'est pas grave, il s'agit que je vienne. La fidélité est plus importante que la ponctualité. Vous voyez comment les gens travaillent. Mais moi, je crois que la fidélité, c'est très important, mais que la ponctualité, c'est un détail aussi important. Vous voyez? Et l'enseignement est là. Cette affaire, elle est là, elle est voulue dans la parole de Dieu, ça a été écrit pour notre instruction, et ça nous indique que si nous ne consultons pas la parole de Dieu, nous risquons de faire comme le monde. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est la preuve que nous ne respectons pas la parole de Dieu, que nous ne consultons pas sérieusement le Nouveau Testament, là on est dans l'Ancien, mais le Nouveau Testament, pour voir la gloire de Dieu. Et je ne vous dis pas quel avertissement Dieu a donné, parce que moi je trouve que c'était quand même sévère, vous comprenez. C'était pas sévère, c'était quand même, en plus c'est tombé, excusez-moi, sur David. Ça serait tombé sur un roi, vous voyez, qui était léger, mais là c'est tombé sur un roi très sérieux. On ne peut pas considérer David quand même comme quelqu'un de léger. Il est dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu qui accomplira toutes ses volontés. Et ce qui nous prouve que même si on est sérieux, il faut être très, très exigeant avec la parole de Dieu. Cette négligence, vous voyez, cette manque de connaissance, ou d'oublier, malgré le zèle. Est-ce qu'ils étaient zélés pour amener l'arche? Ben vous avez vu comment ils l'ont ramené, dans quelle joie ils l'ont ramené, l'enthousiasme. Et tout le monde était d'accord, tout le monde a dit, vas-y David, on est tous avec toi. Voyez, mais cette affaire avec ce jugement très sévère nous montre que ce qui est important, c'est pas les intentions, c'est pas notre zèle, c'est pas nos idées ou nos méthodes. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. David a imité les Philistins, c'est-à-dire le monde, les païens, pour porter l'arche. Voyez, faisons attention aujourd'hui. Vous voulez voir la gloire de Dieu vraiment? Y a-t-il dans l'église de Sainte-Agne des frères et des sœurs qui veulent voir la gloire de Dieu? Si nous ne consultons pas la parole, l'exemple est terrible. Si nous ne consultons pas la parole, nous ferons comme ça se passe dans le monde. Et le jugement sur ce jeune homme, qui est d'une douleur intense quand même, nous montre en vérité un enseignement pourquoi il est mort. Le jugement de Ouza nous montre qu'ils étaient, ou qu'il était, David, inexcusable.
Voilà. Il était inexcusable. Et quand nous passerons devant Dieu, nous ne pourrons pas dire, nous aussi, que nous ne savions pas. Parce que nous avons le Nouveau Testament. Nous l'avons ou nous ne l'avons pas? Nous l'avons. David était certain, sûr, on le voit, ce n'est pas possible autrement, il était sûr d'honorer Dieu. Il était zélé comme Dieu nous demande de l'être. Mais c'est la preuve que le zèle ne suffit pas, il faut la connaissance. Les pharisiens étaient zélés. Ils étaient tellement zélés, mais ils étaient sans intelligence. C'est écrit dans les Romains. Je ne prends pas le temps de le lire. Mais là, ils ont du zèle, dit l'apôtre Paul, mais sans intelligence. Et ne connaissant pas la justice de Dieu, ils s'en tiennent à leur propre justice. Ils avaient du zèle. Le zèle, ça ne suffit pas. Il y a des chrétiens, ils ont du zèle. Moi, je vois des fois, monsieur Gros, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais ça, c'est, le zèle, c'est insuffisant. Il faut la connaissance. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et il faut le demander. Il faut demander. On l'a lu dans les Proverbes. Il faut demander la sagesse et il faut demander la bénédiction. La bénédiction, il faut la demander. C'est écrit dans Zacharie, demandez la plus, regardez ce texte. Quand même, on va le lire parce que c'est dans le cadre de ce qui nous intéresse à nous. Dans le prophète Zacharie, le Seigneur nous demande de demander la pluie. Est-ce que vous demandez la pluie du Seigneur?
Oui.
C'est bien. C'est important tout ça, ce n'est pas des questions que je pose pour, comme ça, inconsidérément. Ce sont des questions sérieuses. Zacharie, au chapitre 10, on voit le verset 1er. C'est dans un contexte assez particulier, mais il nous demande de faire quelque chose. Regardez, Zacharie chapitre 10, verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Voyez, il nous demande de demander la pluie, il enverra à chacun, à chacun. Vous voyez, il parle à tout le monde, mais en fin de compte, chacun peut avoir de l'herbe dans son champ. Est-ce que vous avez de l'herbe dans votre champ? Je ne parle pas de votre jardin. Peut-être vous êtes en appartement, je parle du jardin de votre cœur. Est-ce que votre jardin, le jardin de votre cœur, est verdoyant? Vous voyez, il donnera à chacun. Si vous demandez au Seigneur, il vous donnera la pluie. Dans le prophète Osée, voyez, dans le prophète Osée, c'est un petit peu avant, Osée chapitre 6, on voit qu'il y a cette dimension de venir, de revenir. Peut-être que vous n'êtes jamais venu à Dieu. Dieu dit, venez. Peut-être que vous êtes un fils prodigue et Dieu vous dit, mais revenez. Tout ça, c'est bien indiqué. Dans Osée au chapitre 6, le verset 1 à 3, on voit qu'il y a cette importance de connaître Dieu. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Oui, il n'y a pas de méthode là. Cherchons, la méthode c'est connaître Dieu. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voyez, qu'est-ce qu'il dit ce texte? Que notre recherche doit être la connaissance du Seigneur. Cherchons à connaître l'Éternel. Même nos temps de prière, un certain moment de nos temps de prière devrait être pour être dans sa présence. Il n'est pas dit chercher la bénédiction. Quoique, quand on prie, on va l'obtenir la bénédiction. Mais il n'est pas dit chercher la bénédiction. Cherchez vos intérêts. Cherchez à connaître l'Éternel. David connaissait Dieu. C'est un de ceux qu'il a le mieux connu. Et pourtant, quand il a voulu faire revenir la présence de Dieu en Israël, il s'est trompé. Mais quelle leçon pour nous? Il était sincère. Il voulait la présence de Dieu plus que tout. Mais il lui manquait la connaissance. Vous voulez voir la gloire de... Moi, j'entends de ces choses aujourd'hui, par rapport au réveil. Mais j'entends de ces choses à m'arracher les cheveux. À m'arracher les cheveux. C'est la preuve qu'on se détourne de la connaissance de Dieu et qu'on se détourne surtout de sa parole. On l'a lu dans le Proverbe 2. Si tu la cherches comme l'argent, Si tu la recherches comme un trésor, tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous devrions nous y puiser comme dans un trésor. Quel est l'enseignement, Seigneur, que tu veux que je comprenne dans ce temps que je traverse? Quel est le verset que tu veux que je retienne? C'est peut-être quelque chose qui doit m'éclairer pour mon foyer, pour mon couple, pour ma maison, pour ma famille, pour mon service dans l'église, etc. Si je la cherche comme un trésor. Je vous parlais d'un trésor de 5 millions d'euros dans les fouilles. Je peux vous dire qu'on le ferait. Moi, je loue un tractopelle, s'il faut. Mais c'est sûr. Tant pis. Tant pis si j'en ai pour 200 000 euros de réparation, si je trouve mes 5 millions d'euros. Vous êtes d'accord? Mais c'est ce que Dieu est en train de dire. C'est exactement cela. C'est exactement ça. Les choses de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ça ne peut être découvert que par la connaissance des saintes Écritures. C'est pour ça que nous devons demander au Dieu la soif. Seigneur, redonne-moi un cœur du premier amour. D'ailleurs, c'est ce que Dieu demande, d'avoir la soif du premier amour. Vous vous rappelez quand vous vous êtes converti? Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez lu la Bible? Comment nous la dévorions, comment nous étions bouleversés, nous réalisions que c'était la parole de Dieu. Eh bien, Dieu nous demande de retrouver le feu du premier amour. Je vous lis un verset dans Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ceux que nous avons entendus de peur d'aller à la dérive. Une vive attention. J'ai entendu ça. Je l'ai oublié. Il faut que j'y revienne. Oh, comment Dieu peut-il bénir mon foyer? Vous ne croyez pas que tous les foyers qui ont capoté, excusez-moi, s'ils avaient pris le temps de lire dans la Bible ensemble les conseils de Dieu, vous ne croyez pas qu'ils ne seraient pas partis à la dérive? Soyons sérieux. Et vous savez, quand un homme il lit « Oh, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Ah, il faut que je m'applique à l'aimer, il faut que je m'applique à l'aimer. » C'est pas vrai? Voilà. Et ainsi de suite. Et voilà. Voyez, je le relis, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Et beaucoup d'églises sont à la dérive, beaucoup de croyants par conséquence sont à la dérive parce qu'ils n'ont pas cherché la connaissance de Dieu. Ils ont cherché la bénédiction, ils ont cherché le réveil, ils ont voulu du résultat, ils ont voulu des gens, ils ont voulu du monde. Il y a des églises aux États-Unis qui grandissent à une vitesse folle. Mais dans ces églises, les jeunes filles sont enceintes, les adolescentes tombent enceintes. Il y a des milliers de dollars qui sont investis pour faire pour plaisir aux jeunes. Il y a tout un tas d'activités, mais ces églises grandissent dans le péché. Le groupe grandit, mais les jeunes sont dans le péché. J'ai entendu ça plusieurs fois par David Wilkerson, que Dieu a repris. C'est pour vous dire que là, on cherche du résultat. Nous ne devons pas chercher le résultat. Nous devons chercher Dieu. Et lorsque vous faites votre culte personnel, dites, oh, je cherche ta présence. Je lis ta parole pour te connaître à toi. Et beaucoup d'églises s'imaginent qu'elles vont vivre le réveil parce qu'elles grossissent, elles grandissent numériquement, mais il n'y a aucune crainte de Dieu. Et les gens sont dans le péché, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que numériquement, l'Église grandisse. Et ça, c'est une immense, immense erreur. Parce qu'à quoi ça sert de faire grandir un auditoire si les gens ne sont pas sauvés? À quoi ça sert? À rien du tout. Alors c'est peut-être bien à la fin d'année, pour l'Assemblée Générale. Je ne sais pas, peut-être ça fait plaisir aux croyants de voir que l'Église a gagné sa membre, je ne sais rien. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est la connaissance de l'Éternel. Alors, on va lire la réaction de David, qui a essuyé le coup, et au bout de 3 mois, il a réfléchi. Donc, dans 1 Chronique, au chapitre 15, il a pris le temps, il a dit « ça n'a pas marché, il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire ?» C'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne voyons pas le réveil comme Dieu le voudrait, alors nous devrions relire le Nouveau Testament, le livre des Actes, les Épîtres, et dire, voilà, Seigneur, tu vas me parler, et tu vas me montrer ce qui fait obstacle dans ma vie. Donc regardez, 1 Chronique, chapitre 1. David était un... Voyez, regardez d'abord au chapitre 14, verset 4... 14. 1 Chronique, 14, 14. Il était... Voyez, il l'a fait, là, pour la guerre, pour combattre les Philistins. David consulta... encore, c'était pas la première fois, je vous le dis, et, mais il l'avait pas fait, vous voyez, c'était tellement naturel, David consulta encore Dieu. Il y avait une guerre, et c'est sûr que bon, pour la guerre, il valait mieux peut-être avoir vraiment la pensée de Dieu. Ramenez l'arche, ça pouvait que marcher. Et non. Chapitre 15, David se bâtit des maisons dans la cité de Dieu, il prépara une place à l'arche de Dieu et dessa pour elle une tente. Regardez bien, alors David dit, là il n'a pas consulté les anciens, il a consulté Dieu, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Je peux vous dire qu'il a lu, dans le livre des Nombres et dans le livre de l'Exode. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Il a refait pareil, mais cette fois, regardez, alors on va lire verset 12, c'est le verset 12 qui nous intéresse à nous. Pour terminer, il leur dit, « Vous êtes les chefs des familles de Lévites. Sanctifiez-vous. » C'est ce qu'il a lu dans les Nombres. « Vous et vos frères, pardon, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. » Regardez bien le verset 13. « Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. » Verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs de milieu se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Amen. Ce fut avec l'assistance de Dieu. Elle y était l'assistance de Dieu la première fois. Enfin, il y était le Seigneur puisqu'il a frappé Ouza. Mais il y était pour juger et pas pour bénir. Seigneur, il est au milieu de nous. Et mes frères et mes sœurs, David a été soucieux. Il n'a pas tout envoyé balader. Il a dit, ça ne marche pas. Eh bien, si c'est comme ça, j'en vais tout plaquer. Moi, je vais m'occuper de mes guerres. Eh bien, l'arche de l'Alliance, elle restera chez Obed-Edom. Et voilà, c'est comme ça. Non, il a souffert. Mais il a dit, Dieu va bénir. Dieu ne peut que bénir. Il veut bénir. Et mes frères et sœurs, si nous étions soucieux, comme David, de dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut porter l'affaire de Dieu? Parce qu'après tout, c'est notre affaire, l'affaire du Seigneur. Et Jésus a dit, ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Est-ce que c'est votre préoccupation? Est-ce que ce soir, vous dites, oui, je me sens concerné? Est-ce que vous vous sentez concerné? Non? Est-ce que vous dites, oui, ce soir, je suis là, je suis conscient que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Parce que l'arche devait être portée par les sacrificateurs. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas nous les sacrificateurs? Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était les enfants d'Aaron de génération en génération. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas écrit que nous sommes une race élue de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Apocalypse, il n'est pas écrit, il a fait de nous un royaume de... On le chante, un royaume de sacrificateurs. Les descendants d'Aaron l'étaient par hérédité, nous, nous le sommes par la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, Dieu fait de lui un sacrificateur. Alors je voudrais lire encore quelques textes, parce qu'il y a cette notion de la gloire de Dieu que je voudrais que nous comprenions. C'est pour ça qu'il a persévéré. Regardez dans Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1er. Regardez bien, nous voyons qu'il y a une bénédiction que Dieu veut faire reposer sur quelqu'un. Ésaïe 60, verset 1er. Ce sont des choses importantes. Car croyez-moi, ce que Dieu veut, c'est manifester sa gloire. C'est pour ça que nous travaillons sur ce sujet. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Est-ce que cette gloire de Dieu peut venir? Même si les ténèbres couvrent la terre, est-ce que la gloire de Dieu peut venir encore? Eh bien oui, c'est ce que Dieu est en train de dire. C'est évident. Dieu, avant de revenir, avant de reprendre l'Église, de prendre l'Église, il veut restaurer sa gloire dans l'Église. Regardez avec moi quelques textes, parce qu'il faut quand même que nous terminions avec cette pensée. Dans le livre des Actes, l'apôtre Jacques dit quelque chose. Au chapitre 15, il reprend une prophétie d'Amos, qu'on va lire, mais d'abord lisons dans Actes chapitre 15. C'est quelque chose de très sérieux. On y fait peut-être pas attention, mais si on veut voir la gloire de Dieu, il faut passer par là. Il est hors de question de voir la gloire de Dieu se lever, même si les ténèbres s'épaississent sur la terre, parce que Dieu peut dire à un pays, voilà, vous êtes dans les ténèbres, mais sur toi, ma gloire va se lever. Alléluia. Vous le croyez ça? Un peu, oui. J'espère, acte 15, verset 13. Regardez. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute l'éternité. » On voit dans ce texte, Dieu dit, après cela, je reviendrai. Ça nous parle du retour de Jésus. Dieu peut manifester sa lumière, une moisson abondante. Il prend la prophétie de Amos. Alors il faut y aller. C'est sûr que si vous venez pour la première fois, vous avez peut-être du mal à suivre. Mais je m'adresse surtout aux chrétiens, car il faut s'adresser au peuple de Dieu, qui comprennent que avant que Jésus ne revienne, puisqu'il dit après cela, je reviendrai, après quoi? Eh bien, lisons la prophétie dans Amos, au chapitre 9, verset 11. C'est important. Si vous avez un titre dans votre Bible, vous savez que c'est lors de la venue de Jésus-Christ. Si vous avez une Bible avec des commentaires. Amos chapitre 9, verset 11. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. » Vous voyez, c'est bien ça qu'il dit, Jacques. « Je réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations. » Vous voyez, ce n'est pas pour qu'Israël, c'est aussi pour toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de paix le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, mon Dieu. » Amen. Ce texte nous parle d'une moisson extrêmement abondante. Dieu nous explique par là qu'il est capable de donner un immense résultat. Vous le croyez, ça, que Dieu est capable de donner un immense résultat? Alors, ne résistons pas à cette œuvre de purification, de sanctification. C'est un honneur de croire que Dieu peut dire à quelqu'un, d'accord, les ténèbres couvrent le pays, mais sur toi, ma gloire se lèvera. Moi, bon, je ne sais pas, ça m'interpelle quand même. Non? Est-ce que Dieu peut dire, oui, tout un mouvement, toute une dénomination est tombée dans les méthodes, dans l'excitation, dans les fausses doctrines. Mais sur ceux qui se purifieront, sur ceux qui se sanctifieront, la gloire de Dieu se lèvera. Alléluia, ça vaut la peine de revenir aux actes et de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils faisaient? De suite, quand Jésus leur a dit, vous attendrez à Jérusalem, de suite, ils sont partis dans la chambre haute, de suite, comme ils le faisaient d'ordinaire. Et ils sont allés persévérer dans la prière et 10 jours après, le baptême du Saint-Esprit a eu lieu. Alors, je voudrais peut-être, on ne va pas le lire parce que l'heure tourne, mais est-ce que vous pouvez chez vous lire le prophète Joël? Alors on va lire juste un ou deux versets. Vous voulez bien? On est dans Amos, c'est juste avant. Amos, Joël. Vous lirez le prophète Joël. C'est un texte qui parle du jour de l'Éternel. Si vous avez un titre à ce livre, moi dans ma Bible, il est parlé le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où, après l'enlèvement de l'Église, Dieu s'occupera du monde. C'est là l'exaucement de ce qu'on dit dans le Notre Père, que ton règne vienne. Le jour de l'Éternel. Mais avant ce jour, Dieu veut qu'il se passe certaines choses. Alors le premier chapitre, on voit qu'il y a une désolation, un jugement. Mais méditez-le ce livre. Je sais, il y a longtemps que vous ne l'avez pas lu, le prophète Joël. Eh bien, réapprenez à le lire. Faites-en une affaire sérieuse, car vous voyez exactement que même s'il y a un processus de jugement, à cause de la colère de Dieu qui vient, c'est très simple à comprendre quand on a l'habitude. Mais il y a un jugement de Dieu qui vient sur Israël, et voilà, et Dieu dit, voilà, il va y avoir un jugement. Mais, alors ça c'est à partir du chapitre 2 au verset 12, et c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure, plusieurs ont supplié Dieu, plusieurs ont crié à Dieu, Seigneur sauve des âmes. Regardez bien ce qu'il est écrit, et c'est très intéressant, et ça doit nous pousser à tous à avoir cette ferveur, car Dieu veut qu'on soit fervent pour Dieu. On peut faire des prières paisibles, mais elles peuvent être remplies de ferveur. On peut prier calmement, mais dans ce calme, on va sentir cette ferveur pour le salut des âmes. Regardez Joël chapitre 2. Il faudrait lire. Est-ce qu'on le lit? Allez, on va le lire. Il faut le faire, c'est trop sérieux. Joël chapitre 2, verset 12 à 32. On va le lire, c'est trop sérieux, ça serait dommage de passer à côté d'une conclusion qui est remplie de réponses. Donc Dieu prononce le jugement, mais, voyez ce qu'il dit. Maintenant, verset 12, maintenant, encore, oui, ça veut dire, je suis toujours là après. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi, alors, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Alors on ne pleure pas sur commande, mais quand on voit l'œuvre de Dieu, il y a de quoi pleurer parfois, c'est pas vrai hein? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie, qu'il sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, ça veut dire mais proclamez la parole de Dieu avec sérieux. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Seigneur, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est ton Dieu ?» Vous savez que les païens se moquent de l'Église, mais ils ont raison. J'espère que vous comprenez que quand on montre ce que sont les églises évangéliques aux infos ou aux reportages, mais c'est normal, moi je ne serais pas chrétien, je raillerais. Il y a de quoi se moquer, mais c'est normal. On a abandonné Dieu, on le paye, hein. Verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Et, vous avez vu, il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du moût, de l'huile, vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Vous voyez, Dieu n'en a pas, il est pas inquiété par nos ennemis. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous. Vous voyez, ça commence avec les pleurs, mais quand on pleure devant Dieu, ça change vite en bénédiction. L'Éternel, votre Dieu, il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison, ça c'est pour nous. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Regardez bien ce verset, s'il est merveilleux. Je vous remplacerai Que son nom soit béni. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre nous. Vous voyez, c'est des petits détails, une sauterelle, un criquet, c'est rien du tout. Mais voyez, toutes ces petites choses multipliées à l'infini, ça détruit. Un criquet dans un champ, c'est pas grand-chose. 10 criquets, c'est pas grand-chose. Mais si vous avez 1 million de criquets dans un champ, ça risque de faire mal à la récolte. Et nous, on s'imagine que les petites choses... Vous voyez les détails, les anneaux dans l'arche, les anneaux, mais quelle bricole. Et non. Ça nous rappelle que les détails, une fois de plus, sont sérieux. Tous les détails. Vous voyez ? Alors je relis. Je vous remplacerai les années. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, vous voyez, après toute cette affaire de repentance, de restauration, de jeûne, etc. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, avant l'enlèvement de l'Église. Vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, vous savez que moi j'aime bien un peu l'astronomie. Et vous savez qu'il est parlé de la lune qui deviendra rouge sang, comme du sang. Allez sur Internet et tapez lune sang. Et vous verrez qu'en 2014 et en 2015, il y aura deux fois donc les lunes, la lune qui sera comme du sang. Ça c'est sur un site astronomique, ce n'est pas un truc chrétien. Et ça, les quatre fois à quatre fêtes religieuses en Israël. Après, il n'y en aura plus pendant 40 ans. Ou 70 ans, je ne me rappelle plus. Mais moi, je trouve que ça fait quand même réfléchir. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, la lune se changera en sang. Mais avant, il peut se produire des choses merveilleuses. Avant, Dieu peut nous remplacer les années. Mais c'est à chacun de nous de dire ça, ce n'est pas un détail. Que je ne fais pas mon culte personnel le matin, bon, c'est une broutille. Ce n'est pas une broutille, parce que c'est la chose que Dieu nous demande en premier, de chercher d'abord le royaume de Dieu. Combien de chrétiens ici, mais honnêtement, humblement, avec tristesse, m'ont dit, mais monsieur Gros, moi je ne fais jamais mon culte, je me fais piéger, le soir je suis sur internet, ça fait que le matin je ne peux pas me lever, on ne peut pas faire deux choses, vous savez, en même temps. C'est même, là, c'est, on n'est plus dans les détails, là on est dans les priorités. Et ne nous attendons pas à ce que toute chose nous soit donnée par-dessus si nous ne cherchons pas en premier le royaume de Dieu et sa justice. Ne nous attendons pas à ce que toute chose nous soit donnée si Dieu qui a dit « tu adoreras le Seigneur ton Dieu », nous n'adorons jamais le Seigneur, mais que notre culte personnel soit utilisé juste se dire « bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi et surtout bénis-moi ». Ce n'est pas ça le culte personnel. Le culte personnel, c'est peut-être chercher à connaître Dieu. Chercher à connaître la crainte de l'Éternel. Et vous devriez pouvoir, nous devrions être à même les uns les autres dans nos discussions. Parce que nous sommes des frères et sœurs et nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons être à même de nous témoigner. Vous savez, quand quelqu'un parle, s'il a la crainte de Dieu ou pas. Moi, ça m'est arrivé de dire à des chrétiens, mais quand même, vous parlez comme ça. Vous parlez avec tant de légèreté. Alors, il y a un temps pour rire, mais on peut rire très sainement. Et tout ça, ce sont des détails. David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme de Dieu par excellence, un des piliers de l'Ancien Testament, il n'a pas fait attention. Et je suis sûr qu'il l'avait déjà lu. Vous comprenez? Vous me suivez? Mais c'est ce que c'est important. Oui, parce qu'on a lu plein de choses dans les Actes. Vous avez déjà lu le Nouveau Testament entier, je suppose. Moi aussi, 10 fois, 100 fois. Mais il y a peut-être des choses qui nous ont échappé. Et ça vaudrait peut-être la peine de lire Seigneur. Eh bien, moi, je vais faire comme David. Je vais relire le Nouveau Testament. Je vais commencer au livre des Actes. Et je vais regarder quelle était la réaction des disciples chaque fois que Dieu leur a parlé. Quelle a été leur intention. Et je crois que le Seigneur, il peut nous parler. Vous croyez? On veut voir la gloire de Dieu. On a pris des textes sévères. On a pris des textes qui nous montrent vraiment que Dieu dit, mais attendez, mais oui, j'avais envoyé le jugement. Oui, mais attention, encore et maintenant. si vous vous ressaisissez, si vous priez de tout votre cœur, et moi je le crois que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous devons prier, nous disons, voilà, Seigneur, tu vois, quel est mon culte père. Il y a des petites choses, Dieu doit nous le montrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas possible que le Seigneur ne nous le montre pas. David, et Dieu lui a montré, je l'imagine, David, quand il a lu le livre des Nombres, il a dit, oh, je l'imagine, comme il a dû réagir, oh, qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi je l'avais lu? Je l'avais lu, cette affaire. Les intentions, c'est bien, la vérité, c'est mieux. On ferme les yeux quelques instants. On veut voir la gloire de Dieu. Il y en a certainement parmi nous qui veulent voir la gloire de Dieu. Je le crois. Et comme je l'ai dit l'autre jour, si Dieu nous entretient sur ce sujet, c'est qu'il doit vouloir nous amener à cela. Vous comprenez? Est-ce que l'on pourrait pendant quelques instants prier dans son cœur? Peut-être que Dieu vous a parlé. Vous êtes peut-être nouveau, vous n'avez pas bien compris. Mais vous devez savoir une chose, vous qui venez pour les premières fois. Le Seigneur Jésus utilise les églises pour sauver les âmes et pour bénir les chrétiens. Et tout cela dans la sainteté, dans la consécration, dans un esprit de vérité. Oui, vous qui venez pour la première fois, sentez-vous aimé de Dieu. Il est mort sur le bois de la croix pour vous donner la vie éternelle. Alors dans votre cœur, priez-le à votre place. Et je m'adresse aux chrétiens, pourrions-nous prendre quelques minutes? Est-ce que franchement, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se donner 5-10 minutes, courtement, et que l'on puisse là, dans le recueillement, répondre à cette prédication et dire, Seigneur, tu me demandes de jeûner? Eh bien, je vais le faire. Ne jeûnez pas pour jeûner, mais peut-être pour passer du temps dans sa présence. Tu me demandes de pleurer? Seigneur, je ne vais pas verser de larmes pour verser de larmes, mais je vais quand même réaliser ma misère et mon péché, mon éloignement, ma légèreté, mon jugement vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis des chrétiens, ma moquerie, moi aussi. Pardonne-moi, Seigneur. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Et comme David s'est ressaisi après la mort de ce jeune homme, nous aussi nous voulons nous ressaisir devant la mort qui frappe dans nos églises, devant tous ces hommes qui rétrogradent. Tu avais dit du fils prodigue qu'il était mort. Seigneur, tu vois tous les chrétiens qui sont morts comme Ouza. Seigneur, tu peux leur redonner la vie. Dans une église où les sacrificateurs se sanctifieront et porteront ton œuvre comme tu veux que nous la portions, dans cet esprit de sainteté, dans cet esprit de vérité, dans cet esprit d'équité, de justice. Seigneur, interpelle-nous comme tu as interpellé David. Interpelle-nous, que notre cœur soit bouillant. Je veux, pour ma part, retrouver le feu du premier amour, afin de ne pas être un prédicateur pour prêcher, mais un homme de Dieu qui amènera ta bénédiction sur ton église avec toute l'assemblée. Oui, Seigneur, c'est ma prière. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Oui, nous croyons que tu es capable de nous remplacer toutes les années que nous avons perdues. Merci, Seigneur.